vient d'écouter la chanson Le long de la route de Zaz. J'ai décidé de la prendre, cette chanson, comme chanson thème de cette série, parce qu'elle a quelques ressemblances avec l'histoire biblique qu'on va parler ces trois prochaines semaines. Tout d'abord, Zaz, elle dit que le temps a pris nos envies et nos vœux. Donc les circonstances de la vie ont pris les désirs qu'on avait, les rêves qu'on avait. Cette chanson dit aussi que par les événements de la vie, on se perd dans des dessins sans couleur, gris foncé, et qu'à cause de ça, on est seul dans notre coin, et notre cœur se referme. Et il y a tout plein de ressemblances avec les jeunes qu'on va parler ces trois prochaines semaines. J'aimerais lire le texte avec vous. Il dit comme ça, c'est dans Daniel 1. « La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. J'aimerais qu'on se mette dans la peau de Daniel et de ses amis un peu. C'est pas trop difficile. Imaginons, juste une supposition, qu'on était en train de vivre dans une époque où un grand leader d'une nation européenne était en train d'envahir un autre territoire pour augmenter son pouvoir. Juste une supposition. Imaginons qu'il n'y avait pas d'Union européenne ni d'OTAN. Finalement, la Suisse est attaquée et ils détruisent le palais fédéral, la cathédrale de Lausanne et pire encore, la fabrique du Ragusa, Camille Bloch. Non mais, blague à part, ceux qui ont vraiment vécu ces tristesses, si on donne des cours par exemple à des Afghans ou des gens qui sont venus de Syrie, ou alors les Ukrainiens qu'on côtoie maintenant, ils ne rigolent pas avec ça. J'aimerais que tu imagines un petit peu comment ça serait avoir ton village de naissance bombardé, ta maison détruite, ton père, ta mère ou ta sœur tuée. Et pour finir, tu es privé de ta liberté et emmené de force dans un pays étranger. Quels seraient tes sentiments? Oui, la tristesse, le désespoir, oui. La peur, très bien. Le sentiment d'injustice, oui. Merci, oui, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y avait tout ça dans les cœurs de ces quatre jeunes. Et comme Zaz a chanté, ils vivaient un dessin sans couleur. La guerre a volé les rêves qu'ils avaient pour leur vie. Et très probablement, ils se sentaient seuls aussi dans ce pays étranger. Daniel et ses trois amis-là, ils étaient très jeunes quand ils ont été déportés. On peut découvrir par la succession des rois qui est décrite, parce que le livre décrit bien quand il est arrivé, et il décrit ensuite les rois qui se sont succédés en Babylone. On peut découvrir que Daniel a vécu environ 70 ans en Babylone. Donc on peut imaginer qu'il a été déporté peut-être à l'âge de 14 ou 15 ans, c'est ce que je pense en tout cas. C'est l'âge des jeunes qui vont avoir leur confirmation dans 2 semaines. J'ai pensé à eux quand j'ai préparé ce message, mais bien sûr, il vaut pour tout le monde qui est ici. Donc Daniel, à peu près à 14 ans avec ses amis, il a probablement perdu sa maison, son bétail et son champ de blé. Il se sentait comme ça, comme vous avez dit, un sentiment d'injustice, la tristesse, la peur, la solitude. Leurs parents étaient, les parents de Daniel et ses trois amis, ils étaient soit morts, soit laissés dans une ville désolée, et si c'était à Jérusalem, elle serait complètement rasée quelques années plus tard. Et dans la meilleure des hypothèses, s'ils étaient encore en forme, ils avaient été déportés aussi comme Daniel pour être esclaves en Babylone. Et le texte continue comme ça. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devraient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Il paraît que pour eux, dans cette situation difficile, une porte s'ouvre. Ils sont jeunes, ils sont considérés comme beaux et intelligents, ils sont placés dans une haute école spécialisée dans la formation des employés du roi, et ils ont le droit à la meilleure nourriture disponible dans le marché. Des festins avec du barbecue et du vin. Voilà. Et ils commencent une formation de 3 ans. Un peu comme Élise qui a aussi commencé une maturité de 3 ans à Yverdon. Ou alors Noam qui fait sa 2e année de stage de polymécanicien chez Nespresso. Élise c'est sur 3 ans, Noam c'est sur 4 ans et Daniel et ses amis étaient sur 3 ans aussi. Et le roi leur donne des surnoms. Au Brésil, dans la région où on habitait, on a l'habitude de se donner des surnoms. Mais c'est en général en relation avec l'aspect physique. Souvent, on m'appelait Galego, qui veut dire le blond. Ou encore Branquel, qui veut dire le extra blanc à cause de ma couleur. Quelqu'un m'appelait Jaunâtre. Quand j'ai grandi, et j'étais déjà à ma taille actuelle, un de mes meilleurs amis m'appelait 7 mètres de jambes. Ma femme aime toujours m'appeler Mago, qui signifie le maigre. Pour moi, ce n'était jamais du harcèlement. C'était une pratique très commune dans la région où on habitait. Et pour moi en tout cas, hein, peut-être que ce n'était pas la même chose pour les autres, ça n'a jamais eu l'impression d'un harcèlement. C'était fait d'une manière gentille, si on peut dire comme ça. Mais pour Daniel et ses amis, c'était peut-être un peu plus grave, puisqu'ils changent leur nom d'une signification d'adoration à Dieu pour une signification d'adoration au Dieu babylonien. Daniel, par exemple, signifie « Dieu est mon juge » et Belteshazzar signifie « Bel », une divinité, « protège le roi ». Azaria signifie « celui que Dieu a aidé » et Abednego qui signifie « serviteur de Nego le soleil ». Donc, ouais, c'est un peu plus grave peut-être. Mais en recevant un nouveau nom, une opportunité comme celle-là, c'est une porte qui s'ouvre. C'est peut-être la chance, cette porte est la chance d'éliminer toutes leurs frustrations. La merveilleuse porte qui s'ouvre apporte avec elle cette pensée. J'ai déjà tellement souffert dans la vie. Tout est allé de travers. Tu sais quoi? Je suis jeune, je suis intelligent. Je suis loin de la maison, personne ne me voit ici, personne ne va me juger. Je vais faire ce que je veux, je vais profiter au maximum de tout ça. J'en ai assez d'autant de mauvaises choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai le droit de m'approprier de ce nom et de faire les choix qui me font le plus plaisir sans me soucier de plus rien. Oui, c'est sûrement la tentation qui est venue avec cette opportunité. Et ça ne concerne pas seulement les jeunes. On peut, par exemple, arriver à la retraite et une porte s'ouvre. Celle de ne plus avoir d'obligation professionnelle. Mais avec elle, c'est assez bon. Ça peut être positif. Mais avec elle peut venir aussi la tentation de se dire « J'ai déjà beaucoup donné pour les autres. Maintenant, je vis ma vie à moi tout seul. » Je ne veux plus personne opiner sur ce que je fais, sur comment je vis ma vie. C'est moi qui décide à partir de maintenant. » Ou alors, dans une autre période de la vie, une nouvelle amitié surgit. Et cette amitié est belle, et devient plus que ça, devient une relation amoureuse. Et puis c'est tellement beau qu'on se dit « j'ai plus besoin de Dieu ». C'est la personne de ma vie, elle est tellement précieuse, et puis on part avec cette personne, et Dieu n'a plus de place dans notre vie. Ou encore aussi, une amitié peut surgir, et la porte s'ouvre, et avec elle la pensée « j'ai déjà assez vécu de mon mariage, il n'y a plus de saveur, mais cette amitié va m'apporter plus que mon actuel compagnon ». Et on est tenté de franchir ce seuil. Pourtant, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de confusion et de tristesse pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes. Vous savez le nom de cette porte ? Cette porte a le nom de « Que ma volonté soit faite ». C'est ça le nom de cette porte. Et elle est très valorisée de nos jours. On demande souvent aux jeunes « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Choisis une profession qui t'apporte la satisfaction. Et je comprends bien qu'on a voulu fuir aux obligations qu'il y avait avant de maintenir, par exemple, le commerce de la famille ou la ferme de ses parents ou le métier que son père avait ou que son grand-père avait. Mais ce n'est pas encore la bonne question à poser, parce que si on pose seulement cette question, le guide de ma vie va être ce qui fait plaisir. Voilà. Si ça fait plaisir, c'est bien. Si ça ne fait pas plaisir, c'est mauvais. C'est ça qu'on passe comme message. Et ce n'est pas le même standard que Jésus utilisait pour sa vie. Jésus, il a dit comme ça, ma nourriture, donc ce qui m'apporte la satisfaction, ce qui donne la force pour vivre, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Jésus, il a dit, ma nourriture, le but de ma vie, la manière dont je prends des décisions, c'est pas en pensant quelle est ma volonté, mais c'est en pensant quelle est la volonté de Dieu, quelle est sa mission pour ma vie. C'est comme ça que je prends des décisions. Ça, c'était la manière de penser de Jésus. Et Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant, c'est le texte qui dit, les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquiers. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc Daniel ferme cette porte. Je ne pense pas que Daniel a pris cette décision facilement. Il a été comme toi et moi. Même si on n'est pas aussi jeune, on a des tentations similaires. Et une des plus grandes tentations que tout le monde fait face, c'est le fait de choisir simplement ce qui me fait plaisir. Voilà. C'est le plus simple, c'est le plus confortable. Et le texte ne dit pas, mais je pense que Daniel a beaucoup prié pour avoir la force et le courage de prendre cette décision. Plus tard, on va voir que Daniel était quelqu'un qui avait l'habitude de se rencontrer seul avec Dieu. Il prenait du temps tous les jours, le même horaire pour être seul avec Dieu. Et je ne pense pas que c'était une pratique qui a commencé en exil. Je pense qu'il avait déjà cette pratique avant et que ça s'est juste maintenu. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace cette porte qui avant c'était que ma volonté soit faite et il pose à la place ça. Que ta volonté soit faite. Et le texte dit « Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. » Ce dernier dit à Daniel « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ?» Donc il avait peur. Si je ne vous donne pas à manger ce qu'il a demandé de vous donner à manger, puis après vous ressemblez à Thierry tout maigre et chaud, c'est ma tête qui est en jeu. Il continue dans le texte. À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Donc Daniel dit, fais un test scientifique pendant 10 jours et après tu vas voir comment on est, comment ils sont et puis tu peux prendre une décision. Pour nous, ça peut sembler bizarre de laisser de côté de la viande pour plaire à Dieu. C'est vraiment pas une apologie à être végétarien, non. Mais c'est que Dieu, il avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et en réponse, le peuple d'Israël a fait une alliance avec Dieu. Pour se démarquer des autres nations, ils avaient établi des règles à suivre. Ils avaient des règles morales qui étaient différentes des autres peuples, mais ils avaient aussi des règles d'hygiène physique et de pratique alimentaire. Sur l'hygiène physique, je pense même qu'Israël devait être un des peuples anciens les plus propres de l'Antiquité, parce que le nombre de fois où c'est marqué qu'ils doivent se laver, si ça se passe, vous devez vous laver, si cela se passe, vous devez vous laver, avant cette fête, vous devez vous laver, pour cette cérémonie, il faut vous laver. Je pense qu'ils étaient assez propres physiquement pour l'époque. Et sur les pratiques alimentaires, ils avaient fait une alliance avec Dieu en disant qu'ils allaient manger seulement quelques sortes de viande, toujours sans le sang, et l'animal devait être tué d'une certaine manière. Daniel avait fait cet engagement avec Dieu dès son enfance, et il était déterminé à le maintenir même dans une terre étrangère. Même loin de ses parents, même loin de sa communauté religieuse, loin de tout le monde, il avait dit, mais moi je me suis engagé avec Dieu, je le maintiens. Et puis un problème de plus avec les banquets que le roi mangeait, c'était qu'on retirait une partie de la viande et du vin pour consacrer au dieu de Babylone. Donc, à cause de son engagement avec Dieu, les 4 amis ne voulaient pas manger de la viande ou boire du vin consacré aux autres dieux. Par contre, pour les légumes, les fruits et l'eau, il n'y avait aucune restriction. Et maintenant, je voudrais demander, est-ce que tu as déjà pris des engagements envers le Seigneur en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte ou adulte? Peut-être lors d'une prédication, tu as pris un engagement avec le Seigneur ou en lisant ta Bible, quelque chose t'a marqué et tu as dit, Seigneur, je m'engage à ça. Quels étaient les points de cet engagement? Peut-être c'était à l'époque de ta confirmation. Qu'est-ce que tu as promis là? Le Seigneur. Est-ce que tu maintiens ce que tu as promis? Peut-être c'est lors de ton engagement à Dieu en tant que soldat ou adhérent à l'armée du salut. Tu te souviens de qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que tu maintiens cet engagement? Si tu ne te rappelles pas, j'aimerais rafraîchir ta mémoire. Si tu as signé une promesse de jeune soldat, tu as dit que, entre autres, je veux aimer Dieu, lui obéir et encourager d'autres à suivre Jésus. Je veux prier, lire ma Bible et mener une vie pure en pensée, en parole et en acte. Si tu as signé une promesse de soldat, entre autres, tu as signé que je serai docile à l'action du Saint-Esprit est sensible à son intervention dans la conduite de ma vie. Tu as aussi signé que je prendrai pour norme de ma vie les valeurs propres du royaume de Dieu et non celles du monde. Tu as aussi signé, je respecterai le caractère sacré du mariage et de la vie de famille. C'est intéressant ce point-là. Ça veut dire considérer comme un ministère sacré le temps avec sa femme, le temps avec ses enfants, le temps avec d'autres personnes de sa famille. Les paroles qu'on dit à notre femme ou à nos enfants, les enseignements qu'on donne dans ce contexte sont sacrés et devaient être considérés comme sacrés. Une manière d'adorer le Seigneur dans notre famille. Et le texte dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes à la place. Est-ce que tu crois que faire la volonté de Dieu peut apporter une joie tellement grande que même le corps a une meilleure apparence? Mais j'ai eu le privilège d'étudier avec, pendant la formation pour devenir officier, avec un couple de personnes qui sont nées au Brésil aussi, mais ils ont vécu toute leur vie, lui surtout au Portugal, puis ensuite ils sont arrivés en Suisse, dans la partie qui parle suisse allemand. Avec eux, je parlais en portugais. Et lui, il fait de la boxe, et l'armée de salut vient de lancer une nouvelle campagne pour Noël, et il est l'acteur principal. Il est aujourd'hui, il sert le Seigneur en tant qu'officier de l'armée de salut à Bâle. Et il a raconté son témoignage. En fait, il a rencontré Jésus. Il était garde du corps dans des boîtes de nuit. Et puis, un jour, avec des amis, il avait décidé de kidnapper quelqu'un qui avait des dettes envers lui et avec ses amis. Et ils étaient là, ils attendaient toute la journée pour attendre que le gars, je sais pas, sorte ou arrive à quelque part pour le kidnapper, pour qu'il puisse payer cette dette. Et sa femme était déjà accrochée avec Jésus. C'est dans une assemblée de Dieu, ici en Suisse. Et elle avait dit, appelé toute la journée parce qu'elle voulait qu'il participe à la réunion qu'il y aurait dans cette église ce jour-là. Puis il n'a pas répondu le téléphone parce qu'il était concentré dans sa mission là. Puis à un moment donné, c'était déjà vers 11h du soir, il a dit qu'il a vu le clocher de l'église. Je ne sais pas si c'était la même église qu'il devait aller ou une autre. Puis d'un coup, il dit, j'en ai marre d'attendre, je pars. Puis les autres disaient, mec, attends, on a attendu déjà toute la journée pour prendre ce gars, et puis tu vas partir maintenant. Je dis, ouais, j'en ai marre, je pars, il a dit. Puis il est allé à l'église où sa femme avait dit, mais c'était déjà super tard. C'était presque certain que le culte était déjà terminé. Et il entre, et le pasteur ouvre les bras, il le reçoit, dit, bienvenue, on va commencer notre nuit de prière. Donc ils allaient passer toute la nuit en prière jusqu'à, je ne sais pas, 4-5 heures du matin. Et puis le culte venait de commencer en fait. Puis il s'assied à côté de sa femme, de ses enfants. Et puis quand c'était le matin, peut-être vers 4h, 5h, il entend le clocher qui sonne, l'heure. Et puis il commence à réfléchir que c'est le moment où les gens sortent de les boîtes de nuit et qu'il y a des bagarres et qu'il doit séparer ces bagarres et qu'il y a tout plein de confusion. Et en même temps, il regarde à droite sa femme qui est là en train de prier. Ses enfants sont en train de dormir. Et il regarde autour et puis il a dit, il ne sait pas si c'est quelque chose que le pasteur a dit parce qu'il ne se rappelle rien de ce culte ou si c'est vraiment une voix externe qui est venue. Mais il a entendu cette voix qui disait, c'est moi le prince de la paix. Puis il a commencé à réfléchir en regardant les gens autour, c'est ça la paix. C'est pas ce que je vis dans mon travail. C'est ça, la paix. Et puis, c'est à partir de là qu'il a commencé son cheminement pour rencontrer Jésus, pour avoir une vie transformée. Puis, quand on étudiait ensemble, il a une fois montré une photo de comment il était avant. Il a dit, écoute, j'aime pas trop, et Clarissa, j'aime pas trop montrer cette photo, mais je vais vous montrer comment j'étais avant. Et puis, c'est incroyable comme il a changé. Son visage a changé, les expressions de son visage, de visage très fermé, comme ça, très dur. Son corps a changé. Il y a eu un changement juste de décider de suivre Jésus et d'avoir une vie différente. Si vous voyez cette pub maintenant à Noël, rappelez-vous de cette histoire. Et il est fort possible que Daniel avait accès au livre de Proverbes à son époque. Et pour dire avec autant de certitude qu'au bout de 10 jours, il aurait une meilleure apparence que ceux qui mangeaient des nourritures de la table du roi, peut-être il avait ce verset en tête. J'aimerais le lire avec vous. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Proverbes 3, 7 et 8. Tu vois, il dit dans ce verset que quand on craint l'Éternel, on se détourne du mal, cela apporte la guérison au corps et un rafraîchissement aux os. C'est comme si le corps change aussi avec notre décision d'obéir à Dieu. Et ma question est, est-ce que toi, tu aimerais refaire un engagement avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu as eu assez d'entrer par la porte du « que ma volonté soit faite » Est-ce que tu aimerais revenir à cet engagement ancien? Et comme Jésus, avoir comme nourriture, faire la volonté de celui qui t'a choisi. Accomplir sa mission pour ta vie, pas ta propre mission. On écoutera cette chanson et ensuite j'aimerais prier avec vous.